sur la transplantation. Je cite, quel conflit médico-éthique plus dramatique que celui où la survie d'un être humain dépend de la mort d'un autre? Une ambiance difficile, une question délicate, puisque nous sommes à une extrémité de la vie. C'est tout aussi difficile que au début de la vie, lorsqu'on aborde les problèmes liés à la fin de la vie. Alors, j'ai divisé mon exposé en deux parties. Une première partie, je dirais partie technique, où j'aborde l'aspect médical. Je vous ferai un rappel de quelques notions. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop compliqué, enfin, j'espère. Et puis une partie où j'aborderai l'aspect législatif, la loi civile, ainsi que les éléments donnés par le magistère de l'Église. Et une deuxième partie où j'aborderai plus spécialement donc l'aspect philosophique, moral, en particulier la notion centrale de mort cérébrale. Et puis, si nous y arrivons, si je ne vous ai pas installé en état de mort cérébrale dans mon exposé, ben, nous conclurons. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez me pardonner l'expression. Vous le savez, lorsqu'on se retrouve suite à une maladie avec une défaillance irréversible d'un organe, compromettant la vie, la survie, la technique médicale et chirurgicale actuellement peut permettre son remplacement avec l'organe de quelqu'un d'autre, qu'on appelle donneur. Quelques conditions sont nécessaires. Il faut que le donneur soit, s'il est vivant, soit consentant, soit d'accord, ou bien qu'il soit mort. Et là également, un consentement est nécessaire. Il faut aussi qu'il y ait une immunocompatibilité. Alors là, juste un bref rappel. Nos tissus donc, sont identifiés, ils ont une individualité, par le système HLA. Les antigènes, donc à la surface des tissus, des cellules, permettent d'identifier le tissu. Et si des tissus sont des organes ou des cellules sont introduites dans un autre organisme, celui-ci va les reconnaître comme des substances étrangères et essayer de les détruire, de les rejeter. Donc ça, c'est un premier problème qui se pose lorsque l'on transplante les organes. Il faut qu'il y ait une immunocompatibilité, qu'il n'y ait pas que les tissus qu'on implante ou l'organe qu'on implante ne soient pas totalement reconnus comme totalement étrangers. Alors, il ne sera jamais identique. Mais il peut y avoir une certaine compatibilité qui n'empêche pas toujours des phénomènes de rejet de se produire, mais qui resteront limités et qu'on pourra traiter par des médicaments, ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Les personnes qui ont été transplantées doivent prendre des médicaments immunosuppresseurs, donc qui diminuent leur immunité, qui diminuent les réactions de rejet. Donc, le prélèvement d'organes se fait chez un donneur, et l'implantation de l'organe chez la personne qu'on appelle le receveur. Alors le donneur peut être vivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans ce cas-là, les organes, ça se limite aux reins et récemment au foie. On peut prendre, alors bien sûr ce n'est pas le foie entier, parce que c'est un organe vital quand même, mais une partie du foie. Et un morceau de foie peut être découpé, il sera transplanté, il sera implanté chez le receveur, et le donneur va se débrouiller avec le foie restant. Pour ce qui est des reins, bon, ça c'est évident, on n'en prend qu'un, bien sûr. Et là, c'est la même chose. Le donneur va rester avec un seul rein, et puis le receveur en a aussi un, donc il partage les reins en deux. Pour ce qui est de... Le donneur peut aussi être mort. Dans ce cas-là, on peut prendre tous les organes que l'on veut, tous les organes vitaux, les reins, le cœur, le poumon. Ça sera en général le bloc cœur-poumon. Cœur et les deux poumons, ou bien cœur-poumon gauche. Le foie, alors entier dans ce cas-là. Le pancréas, même le bloc foie-pancréas. Juste le cerveau ne peut pas être prélevé et implanté chez un receveur. C'est peut-être heureux qu'il en soit ainsi, sinon on pourrait craindre qu'il y ait des abus. On imagine dans le domaine de la psychiatrie, par exemple, quelqu'un pourrait penser que ce serait pratique de changer son cerveau en prenant le cerveau de quelqu'un d'un peu plus raisonnable, par exemple. Mais bon, pour l'instant, le cerveau fait exception. Et c'est justement un point que nous allons, justement, qui rentre dans la discussion que nous allons, que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà, donc pour ce qui est des problèmes techniques, encore une certaine difficulté, ce sont actuellement les problèmes d'approvisionnement, puisque les organes se sont fait rares, il n'y a pas beaucoup de donneurs, et il y a beaucoup plus de receveurs qui sont sur des listes d'attente. Encore une exigence technique, c'est que l'organe à transplanter doit être en bon état. Il ne faut pas qu'il soit malade, et il faut qu'il soit frais. C'est aussi quelque chose qui va important qui va intervenir dans la. Voilà, donc c'est tout pour la partie technique médicale. Nous allons aborder maintenant le problème législatif. Je vous disais donc que nous avons une nouvelle loi en Suisse sur la transplantation. Il y a eu quelques associations, quelques groupes groupements qui ont essayé. En raison du caractère de cette loi, qui ont essayé de la contrer en provoquant un référendum. Malheureusement, la récolte des signatures nécessaires, donc les 50 000 signatures nécessaires, n'a pas abouti. Donc c'est une loi avec laquelle il faudra compter en Suisse. Cette loi était apparue nécessaire pour beaucoup, car avant, on avait ce qu'on appelait un vide juridique et on disposait seulement que d'ordonnances cantonales. Alors dans ces ordonnances cantonales, il y avait de fortes disparités, puisque dans un certain cas, pour ce qui était du consentement du donneur, on tenait compte du consentement explicite, hein, c'est-à-dire que le donneur, de son vivant, avant son décès, ait eu l'occasion d'exprimer explicitement son accord, ou bien qu'il porte une carte de donneur. Il y a également le consentement élargi, c'est-à-dire que là, c'est la famille qui prend position et qui exprime la volonté supposée du donneur et qui donne son accord. Et puis, il y a le consentement présumé. C'est-à-dire qu'on estime que si la personne ne s'y était pas explicitement opposée, on pense qu'elle aurait certainement accepté, ce qui donne le droit de prélever des organes chez tout défunt qui n'aurait pas, donc, de façon claire et nette, déjà donc, exprimé un refus d'un prélèvement d'organes. Alors ce consentement présumé, qui va quand même assez loin, était déjà dans la loi des cantons de Bâle, Zurich, Vaud et Neuchâtel. Il semblerait que dans certains de ces cantons, il n'ait pas été quand même tout de même appliqué, les médecins n'osant pas prélever des organes chez quelqu'un qui n'aurait pas explicitement donné son accord ou en l'absence de l'accord de la famille. Et puis, il y avait 6 cantons qui n'avaient pas de loi. C'était assez gênant. Et puis, vu les disparités cantonales, on ne savait pas ce qu'il fallait faire si, par exemple, un Tessinois décédait à Zurich. Les dispositions cantonales étaient différentes. Or, il a paru nécessaire d'avoir une loi fédérale qui soit la même pour tous les camps, pour tout le monde, pour tout le pays. Alors, cette fois, elle affirme la compétence de la Confédération dans les questions de médecine de transplantation et elle remplace les ordonnances cantonales. C'est le premier point. Deuxième point, elle adopte la solution du consentement explicite et élargi, c'est-à-dire soit la volonté explicitement exprimée de donner des organes, soit le consentement de la famille. La volonté des proches qui reste, cette volonté des proches, il est bien noté qu'elle reste seulement subsidiaire. Il ne faut pas, les proches ne pourraient pas donner leur accord alors que le donneur aurait explicitement refusé de son vivant, exprimé un refus. On ne peut pas non plus, avec cette loi, prendre des organes chez quelqu'un dont on n'a pas de, qui n'aurait pas de famille, et là où aucune volonté ne serait exprimée. Donc cette loi élimine la solution du consentement présumé, à première vue. Un autre point, elle prévoit également le prélèvement sur des fœtus et des embryons. Et un point encore, alors qui est tout à fait important, tout à fait, nouveau, c'est qu'elle consacre le concept de la mort cérébrale comme critère de la mort. Et ceci en fonction des directives qui avaient été déjà données par l'Association suisse pour les sciences médicales. Alors nous avons une loi maintenant qui vous dit quand vous êtes mort. C'est un point sur lequel j'attire votre attention, qui est tout à fait important. C'est assez particulier pour une loi civile, de donner ce genre de, d'aller dans ce genre de définition. Voilà pour ce qui est de la loi civile. Attendez, je vais juste quand même vous lire un point de la loi, l'article 9. Voilà, article 9, critère du décès et constatation du décès. Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. Pardon, excusez. Voilà. Alors voilà pour ce qui est de la loi civile. Maintenant, que dit l'Église à ce propos ? Alors bien sûr, on ne trouve pas ça dans les textes anciens de façon explicite et détaillée. Il faut attendre le pape Pie XII pour avoir un discours assez précis à ce sujet. Le pape Pie XII estime que le don d'organes n'est en soi pas immoral, et il estime même qu'il pourrait être rétribué, ce qui peut nous étonner, puisqu'on a cette notion actuelle que le don d'organes devrait être gratuit. Il dit encore, « La vie est un droit fondamental reçu du Créateur et dont il faut prouver avec certitude qu'il est perdu. » Un élément à retenir pour la suite. Et il dit encore, il appartient au médecin et particulièrement à l'anesthésiologue de donner une définition claire et précise de la mort et du moment de la mort d'un patient qui décède en état d'inconscience. En ce qui concerne la constatation du fait dans les cas particuliers, la réponse ne peut se déduire d'aucun principe religieux et moral, et sous cet aspect n'appartient pas à la compétence de l'Église. En attendant, elle restera donc ouverte. Voilà, donc l'Église n'est pas vraiment compétente pour déterminer du point de vue technique, du point de vue pratique, si quelqu'un est mort ou pas. Mais il ajoute encore, mais des considérations d'ordre général permettent de croire que la vie humaine continue aussi longtemps que ses fonctions vitales se manifestent spontanément ou même à l'aide de procédés artificiels. Un bon nombre de ces cas font l'objet d'un doute insoluble et doivent être traités d'après les présomptions de droit et de fait dont nous avons parlé. De quelles présomptions il s'agit ? Il s'agit en général, on s'arrêtera à la présomption de permanence de la vie. Parce qu'il s'agit d'un droit fondamental reçu du Créateur et dont il faut prouver avec certitude qu'il est perdu. Donc c'est ce que, là, je reprends la phrase du début. Alors retenez bien donc ce mot, présomption de permanence de la vie. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si des signes laissent à penser que quelqu'un est mort, mais qu'il y a en même temps coexistence d'autres signes de vie, correspondant à des fonctions vitales qui resteraient conservées, il y a un doute insoluble et on doit considérer la personne comme vivante et non comme morte, selon la présomption de permanence de la vie. On pourrait dire, par analogie, c'est le même principe dans la justice, où on estime qu'il vaut mieux relâcher un coupable que condamner un innocent. Et on reconnaît la présomption d'innocence. Donc, tant qu'il y a une présomption de vie, on ne peut pas parler de cadavre. Voilà, donc là, en fait, je pourrais presque arrêter mon exposé à ce point-là, puisque si vous retenez tout ça, vous avez à peu près l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour porter un jugement sur la pratique actuelle des transplantations. Il reste encore du temps, alors je vais continuer. Le pape Pie XII, c'était environ dans les années 50. C'était précisément en 1954 quand il a exprimé cet avis, ce jugement. Et bien, c'était quand même bien avant que les greffes des organes vitaux deviennent courantes. À l'époque, on commençait à... C'était un peu plus habituel, c'était les greffes de cornée. Pour dire, il a parlé de façon pratiquement prophétique. Il avait déjà, comme dans d'autres domaines, il avait déjà vu un peu quel allait être le développement des transplantations. Justement, on va faire peut-être un petit aperçu historique. En 1933, a eu lieu la première transplantation de rein d'un donneur mort en Russie, en URSS. En 1952, la première transplantation de rein d'un donneur vivant en France. Et seulement après, parce que ça n'a pas tellement bien fonctionné, seulement après, en 1958, on découvre le système HLA, le système d'immunocompatibilité dont je vous avais parlé précédemment. Et seulement en 1962, on fait la typisation des tissus, donc du système HLA, des donneurs et des receveurs, pour pratiquer une greffe d'organes. En 1963, la première transplantation de foie. La même année, transplantation de poumon. La même année, on a essayé encore de transplanter un rein de chimpanzé chez un homme. Et puis aux États-Unis, on a essayé lors de beaucoup de tentatives de transplanter des reins de singes. En Suisse, la première transplantation de rein à Zurich en 1964. En 1966, transplantation de pancréas. Et en 1972 seulement, la découverte de la cyclosporine, donc un médicament immunosuppresseur nécessaire pour éviter les phénomènes de rejet chez le receveur d'organes. Donc bien longtemps après. Et c'est seulement à partir de la découverte de l'utilisation de ces médicaments que vraiment les greffes d'organes ont pu devenir beaucoup plus habituelles, beaucoup plus courantes qu'auparavant. Donc vous voyez que le pape Pie XII, déjà longtemps avant que ça devienne quelque chose de plus habituel, de quelque chose de viable, avait donné des éléments de réflexion sur les greffes d'organes. Alors, depuis 1954, il y Y a-t-il eu d'autres prises de position? Certains esprits critiques qui ont fait paraître leur avis, leur opinion dans le fascicule Le respect de la vie aux éditions Fidélitaire nous disent, hélas, les techniques modernes et l'audace de certains médecins n'ont rencontré depuis la mort du grand Pie XII que le silence du magistère de l'Église. Alors ça, c'était encore au siècle dernier, mais dans l'année 2000, le pape Jean-Paul II a émis aussi un des avis sur le et a pris donc a, une, a, a émis une prise de position sur les greffes d'organes. Je vais essayer de retrouver le papier dans lequel se trouve cette prise de position pour vous le citer. Voilà. Le pape Jean-Paul II a affirmé que les organes vitaux, qui sont uniques dans le corps, ne peuvent être prélevés qu'ex-cadavere, c'est-à-dire du corps d'une personne dont on a la certitude qu'elle est certainement morte. Cette exigence est évidente, car agir autrement signifierait provoquer de façon intentionnelle la mort du donneur en prélevant ses organes. Alors jusque-là, rien à dire. Ça ne s'oppose pas à ce que disait le pape Pie XII. Le pape Jean-Paul II rappelle que la mort est la séparation de l'âme et du corps, et que la mort de la personne, comprise dans son sens premier, est un événement qu'aucune technique scientifique ni empirique ne peut identifier directement. Alors là, il répète ce qu'a dit le pape Pie XII. Mais ensuite, il ajoute: chacun sait que depuis un certain temps, les approches visant à déclarer avec certitude la mort ont déplacé l'accent des signes cardio-respiratoires traditionnels vers ce que l'on appelle le critère neurologique. De façon spécifique, cela consiste à établir, selon des paramètres clairement déterminés, également partagés par la communauté scientifique internationale, la cessation totale et irréversible de toute activité cérébrale dans le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Cela est considéré comme le signe que l'organisme individuel a perdu sa capacité d'intégration. En ce qui concerne les paramètres utilisés aujourd'hui pour déclarer avec certitude la mort, que ce soit les signes cérébraux ou les signes cardio-respiratoires plus traditionnels, l'Église ne prend pas de décision en matière d'options scientifiques. Ici, l'on peut dire que le critère adopté récemment pour déclarer avec certitude la mort, c'est-à-dire la cessation complète et irréversible de toute activité cérébrale, s'il est rigoureusement appliqué, ne semble pas en conflit avec les éléments essentiels d'une anthropologie sérieuse. Alors, il faut essayer de traduire. Je ne sais pas, tout le monde a compris. Bien. Effectivement, il répète donc, il reprend les propos du pape Pie XII, et puis il dit que l'Église ne prend pas de décision en matière d'options scientifiques. Critères techniques de la mort, bon, établi scientifiquement, l'Église ne prend pas de décision. On peut pas, c'est pas vraiment, effectivement, c'est pas tellement contestable. Mais il semble admettre que la mort du cerveau pourrait être définie comme la mort de l'individu. Comme le fait maintenant la loi suisse sur les transplantations. Il ne dit pas que c'est bien, que c'est moralement acceptable, il dit que ça ne semble pas, ça me semble, enfin, il est quand même prudent, et imprudent en même temps, mais il utilise le mot semble, ne semble pas en conflit avec les éléments essentiels d'une anthropologie sérieuse. Il donne l'impression d'être d'accord. Alors, on a parlé plusieurs fois de la mort cérébrale. Il faudrait peut-être que je vous explique ce que c'est. Alors là, je pense que c'est ça. Oui, ah non, je n'ai pas de tableau. Bon, ça, enfin, je vais essayer de vous expliquer. Alors, la mort cérébrale, il s'agit de savoir si c'est la bonne mort, ou bien plutôt, mieux dit, si on est mort pour de bon, qu'on est défini en état de mort cérébrale. Selon les directives de l'Association suisse pour les sciences médicales, qui ont été reprises par la loi suisse, il est dit qu'un être humain est mort en cas de défaillance irréversible de son cerveau, y compris du tronc cérébral. Alors pour l'explication anatomique, j'ai besoin de vous faire un petit schéma. Beaucoup de travail pour pas grand-chose, je suis désolé, parce que c'est un schéma, vous allez voir, très très sommaire. C'est juste. Là, il y a un cerveau, je vais essayer de dessiner ça comme il faut. Attendez, voilà. Ouais, enfin, ça donne à peu près ça. Non, c'est à l'envers. Bon, ça fait rien. Là, il y a le cerveau, puis après, il y a le tronc cérébral, et puis ensuite, il y a la moelle épinière. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dessiner. Désolé un peu. Voilà. Alors. Mais bon, ça peut peut-être vous aider à vous repérer. Alors, le cerveau, tout là-haut, c'est le centre de la conscience, de la volonté. Et le tronc cérébral, c'est le centre de commande des fonctions vitales, on pourrait aussi dire des fonctions végétatives. Donc, qui ne sont pas dépendantes de la volonté. C'est le centre de commande de la respiration, de l'activité cardiaque et circulatoire. C'est également le centre de commande de la vigilance, car si le tronc cérébral est détruit, même si le cerveau ne l'est pas, la personne est inconsciente. Donc la personne peut être inconsciente dans deux cas, si son cerveau, tout là-haut, donc, est détruit ou défaillant, ou aussi le cerveau, donc le cortex, hein, le cerveau cortical, on pourrait dire périphérique, et la personne peut être également inconsciente si seulement le tronc cérébral est détruit. Alors, si le tronc cérébral est détruit également, il y a un arrêt de la respiration. Mais celle-ci peut être maintenue artificiellement. La personne, donc, avec une destruction du tronc cérébral, plus ou moins la destruction du cerveau, aura donc un état d'inconscience, un arrêt respiratoire. Elle devra être ventilée. Par contre, éventuellement, son cœur peut continuer à battre. Alors, selon l'importance de la destruction et la hauteur, le siège de la destruction au niveau du tronc cérébral, il peut y avoir des troubles du rythme. Une assistance cardiaque peut être aussi nécessaire, mais pas toujours. Et il n'y a pas un arrêt donc obligatoire des battements du cœur. On distingue la mort cérébrale primaire. C'est en cas de maladie ou en cas du cerveau directement, par exemple un accident vasculaire cérébral, une attaque massive, ou bien en cas d'accident, un traumatisme important par exemple. Donc ça, c'est la mort cérébrale primaire. Et puis, la mort cérébrale, on parle de mort cérébrale secondaire. Alors là, la destruction du cerveau fait suite à l'arrêt cardio-circulatoire, un arrêt cardio-circulatoire. On estime que, au-delà de 8 minutes, le cerveau, dans son ensemble, hein, le cerveau proprement dit et tronc cérébral, sont détruits. Vous voyez donc que, avec cette définition de mort cérébrale, on peut définir quelqu'un comme mort, même si son cœur bat encore. Le constat de la mort cérébrale repose sur sept signes d'examen clinique. pratiquée donc par un médecin. Il doit donc constater un coma profond. Il ne faut pas qu'il se réveille, qu'on le secoue, qu'on l'appelle. Donc ça, c'est le coma profond. Il faut que ses pupilles soient en mydriase, sans réaction à la lumière. Il faut une absence de réflexe oculocéphalique. Alors, les réflexes oculocéphaliques, si on bouge la tête, les yeux doivent rester dans la, garder le même axe. Ils ne doivent pas suivre le mouvement de la tête. Ou bien, on peut aussi mettre de l'eau glacée dans le conduit auditif. Normalement, si le tronc cérébral est conservé, cela déclenchera des mouvements, des battements des yeux. Alors, ce réflexe ne doit pas être présent. Il faut aussi une absence de réflexe cornéen. C'est-à-dire que si on la touche la cornée, il ne doit pas y avoir de réflexe de clignement. Une absence de réaction cérébrale à des stimuli douloureux. La personne ne doit pas dire aïe quand on la pince. C'est ça, en fait, c'est réaction cérébrale, c'est ça. Notez bien le mot réaction cérébrale, parce que vous verrez plus tard. Une absence, il faut aussi une absence de réflexe de toux et oropharyngé, c'est-à-dire que si on va aller chatouiller la gorge, la trachée avec une sonde, il ne faut pas que la personne commence à tousser, à vomir. Et puis, il faut une absence d'activité respiratoire spontanée. Donc tous ces critères doivent être présents sur deux évaluations à 6 heures d'intervalle. On ne se base normalement pas sur un seul examen. Alors, absence d'activité respiratoire spontanée, on débranche le respirateur, la machine, et puis c'est le test d'apnée, on doit constater que la personne ne respire pas elle-même. Il est prévu aussi des examens complémentaires en cas de doute, mais, comme vous le constatez, il s'agit surtout d'un diagnostic clinique. Les examens complémentaires ne viennent qu'en deuxième position. Par exemple, en Suisse, contrairement probablement à d'autres pays, l'électroencéphalogramme n'est pas un critère principal. Le fameux électroencéphalogramme plat peut venir pour aider pour le diagnostic, mais le diagnostic n'est pas basé seulement là-dessus. Et l'examen complémentaire, le mieux, disons, qui a le plus de valeur, c'est l'angiographie cérébrale, injection de produits de contraste, et constatation de l'absence de circulation au niveau du cerveau. Voilà donc pour ce qui est de la mort cérébrale. Alors peut-être maintenant une petite digression sur la mort. Alors, quand est-ce qu'on est mort finalement? C'est vrai qu'on commence à se poser des questions. Alors la mort, je pense que c'est ce que les enfants apprennent au catéchisme, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est bien juste. Voilà. Si l'abbé confirme, c'est bien, je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est dans un domaine qui n'est pas le mien. Alors, ce n'est pas l'inconvénient de la séparation de l'âme du corps, je dirais, c'est que ce n'est pas directement visible. On ne voit pas l'âme qui sort du corps. On constate les effets de la séparation de l'âme et du corps, mais le phénomène lui-même de la séparation, on ne le voit pas. On se retrouve un peu dans la même situation et la même difficulté que pour le début de la vie. Donc, la même difficulté pour la conception, l'apparition d'un nouvel être humain et sa mort. Le début de la vie, c'est l'apparition de l'âme dans le corps, et la fin de la vie, c'est la disparition de l'âme du corps. Mais, avec nos yeux, aidés par, bien sûr, des appareils, mais ce sont quand même toujours nos yeux, nous n'observons qu'un phénomène biologique progressif. Il n'y a pas un moment absolument, vraiment, avec certitude, qui est précis, où on voit là, il y a la vie, ou bien là, il n'y a plus la vie. Nous avons donc un phénomène biologique progressif, une transition, et puis en même temps, un fait spirituel instantané qui définissent le même changement. Donc avant et après, c'est identifiable. Donc avant la vie, on voit bien qu'il n'y a rien. Après la conception, bien, il y a effectivement un nouvel être humain. Avant la mort, bon, il y a un être humain vivant. Après la mort, après sa mort, on voit qu'on a affaire à un cadavre. Mais le moment précis où cela se produit, ce ne l'est pas. Donc, vous voyez bien, les critères d'ailleurs de mort sont tout à fait différents si on a affaire à un médecin légiste ou à un médecin transplanteur. Médecin transplanteur qui, je vous le rappelle, a besoin d'organes frais. Le médecin légiste, il nous dira, vous vous dites que quelqu'un est mort seulement si vous voyez des taches cadavériques et puis une rigidité cadavérique. Mais il est clair que pour prélever des organes, ce n'est pas très intéressant d'attendre ce stade-là. Alors, quels sont les arguments pour définir ou assimiler la destruction du cerveau à la mort de la personne? Alors, on nous dit qu'historiquement, avant les années 60, le prélèvement d'organes se pratiquait chez les sujets décédés après un arrêt cardiaque. On a de tout temps considéré que quelqu'un était mort quand son cœur ne battait plus. C'est un peu encore la notion courante. Mais il est vrai qu'avec les progrès des techniques de réanimation et de la médecine intensive, on peut faire repartir le cœur chez des personnes qui étaient en état de mort apparente, donc inconscientes, et en arrêt cardio-circulatoire et respiratoire. Alors, on a dit, ben, c'est pas vraiment un bon critère. Et on a dit que si le cœur peut refonctionner même après un arrêt relativement prolongé, le cerveau, lui, il est définitivement détruit après une interruption de la circulation, même très courte, de l'ordre de 5 à 8 minutes. L'Association suisse pour les sciences médicales affirme que le caractère définitif de l'arrêt cardiaque est plus difficile à déterminer cliniquement que l'irréversibilité des lésions cérébrales. Autrement dit, un cœur qui est arrêté, il peut repartir, tandis qu'un cerveau qui est arrêté, eh bien, il ne repart plus. Alors, les critères de mort qui étaient valables par le passé, donc l'arrêt de la respiration et du cœur, ont été relativisés. Et on affirme que les critères qui définissent la mort cérébrale seraient plus fiables. Je vous résume donc les points, les arguments pour le concept de mort cérébrale égale à la mort de l'individu. Premièrement, le cerveau, contrairement aux autres organes vitaux, ne peut pas être réanimé au-delà de 5 à 8 minutes. Deuxièmement, on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas greffer un autre cerveau, c'est ce que je vous disais au début. Troisièmement, le cerveau plus le tronc cérébral est l'organe central et c'est l'organe le plus important de l'organisme, c'est le centre de commande de toutes les fonctions vitales. D'où l'affirmation. Un être humain est mort en cas de défaillance irréversible du cerveau, y compris le tronc cérébral. Défaillance qui entraîne la mort inéluctable de tous ses organes, tissus et cellules. Une autre citation qui va dans le même sens. La mort cérébrale peut être considérée comme critère fiable de la mort, tant du point de vue médical que sous l'aspect de l'éthique. Voilà. Alors, la cause est entendue. Le magistère laïque, en la présence de l'Association suisse pour les sciences médicales et du comité de central d'éthique, donc ce magistère laïque de notre société a parlé, ite missa est, on pourrait dire. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez à ce point, à ce stade-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion, cette nouvelle notion de la mort? Alors, certaines personnes n'ont pas été d'accord. Il y a eu de la contestation, de la controverse, qui est apparue un peu plus tard, dans les années, surtout dans les années 90. Et je vous rassure, pas seulement du côté de ce qu'on appelle les milieux religieux ultra-conservateurs. Il y a également, par exemple, les Japonais. Le Japon n'a pas admis, fortement contesté, le concept de mort cérébrale. Et puis, il y a eu justement dans les années 90, des reportages un peu troublants où on rapportait que des personnes déclarées en état de mort cérébrale sont revenues à la vie. Je vous citerai quelques-uns de ces cas, je vous lirai quelques passages de journaux. C'est du point de vue du point de vue scientifique, certains ont constaté que des personnes déclarées en état de mort cérébrale restaient très longtemps avec une activité cardiaque spontanée, entre jusqu'à un mois, quelquefois 10 mois. C'est des morts qui sont conservées assez longtemps. 10 mois, quand même. C'est long pour un mort d'avoir le cœur qui bat pendant 10 mois. Et des retours à la vie de certaines personnes déclarées en état de mort cardiaque grâce à des traitements spéciaux, comme par exemple l'hypothermie cérébrale. C'est les Japonais qui ont fait ça. Alors quelques reportages de résurrection spectaculaires dans les journaux. Par exemple, dans le Figaro du 97, une injection, oui, technique de choc, une injection ranime un comateux. Une équipe américaine a réussi, grâce à une technique apparemment très prometteuse, c'est le moins qu'on puisse dire, à réanimer un patient en état apparent de mort cérébrale depuis 6 heures à la suite d'une attaque. Donc les 6 heures, le délai légal. Celui-ci est sorti de son profond coma quelques heures seulement après avoir bénéficié d'une injection directement dans le cerveau d'un médicament thrombolytique destiné à résorber les caillots sanguins à l'origine de sa congestion. Bien que dénué de toute activité cérébrale pendant 6 heures, le cerveau n'a apparemment pas subi de dommages irréparables. Le malade n'a aujourd'hui pratiquement plus de séquelles de cette congestion, en dehors d'une perte de la vision de l'œil gauche et des troubles d'équilibre. C'est un petit peu gênant, mais il est quand même vivant. Encore quelques autres extraits de journaux, alors qu'ils sont dans un article de l'abbé Rotoli, qui a été traduit dans un cahier du sel de la terre. Donc l'abbé Rotoli nous dit: des cas spectaculaires sont parus dans les colonnes des journaux faisant état de personnes dont on se préparait à explanter les organes vitaux, et qui, l'opération ayant été finalement annulée, ont repris une vie normale par la suite. Seulement deux exemples. Un jeune Allemand de 18 ans est renversé par une voiture alors qu'il était en scooter. Il tombe dans le coma. On l'emmena à l'hôpital et l'on considéra qu'il pourrait être donneur. On appela son père au téléphone. Bonjour, ici l'hôpital Cardarelli de Naples. Votre fils a-t-il la carte de donneur? Votre fils est gravement blessé, il est dans le coma. Nous sommes désolés, mais il n'y a plus rien à faire. Son père répondit: laissez-le comme il est, j'arrive tout de suite, ne le touchez pas. Alors après, les parents arrivent avec un médecin allemand, pas un médecin italien, et ils arrivent quand même avec difficulté, ils peuvent le ramener. Je continue l'article. La femme médecin donna cet ordre: parlez-lui. La mère caressa les cheveux de son fils, ses paupières frémirent. Le jeune docteur dit alors: nous y arriverons. Le jeune fut transporté en Allemagne. Le jour suivant, il ouvrait déjà les yeux. Aujourd'hui, Martin a fini ses études et joue au basket sans avoir aucune lésion permanente. Dans le Resto del Carlino du 12 septembre 1999, le cas du jeune Luca, le jeune garçon que l'on croyait mort et prêt pour le don d'organes, se réveille du coma. Alors qu'il était prêt pour la transplantation, il demande une cigarette. On disait qu'il était en état de mort cérébrale. Alors cela semblerait contredire les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, que la mort cérébrale était le critère le plus fiable de la mort, que les critères de mort cérébrale étaient vraiment fiables. Il semblerait que ce ne soit pas si fiable que ça. Certains scientifiques se demandent même si dans un cerveau en état de mort cérébrale, s'il ne reste pas tout de même des îlots de survie, des îlots de vie, qui ne sont pas détectables par l'examen clinique ou par les examens paracliniques, les examens complémentaires. Et se demande aussi s'il n'y a pas une possibilité de récupération du cerveau meilleure que ce que l'on dit. Et comme l'écrit l'abbé Rotoli dans son article, il est un peu suspect que les hôpitaux ne fassent pas d'autopsie du cerveau des personnes transplantées pour voir si cet organe était vraiment détruit. Lorsque ces autopsies ont été réalisées, quelquefois, elles ont montré souvent qu'il n'y avait pas de destruction totale du cerveau. L'abbé Rotoli écrit encore: cette masse de preuves toujours plus nombreuses continue à jeter de graves doutes sur la certitude des diagnostics de mort en présence d'un cœur qui bat et laisse ouverte la question de savoir combien de temps après la cessation de la circulation cesse définitivement toute fonction du cerveau. Il ajoute encore dans son article que même un cerveau en état de mort cérébrale peut garder une fonction endocrinienne. Le cerveau, donc le centre de la vigilance, centre aussi de des fonctions végétatives, de la respiration, du battement du cœur, mais également un organe qui sécrète des hormones, en particulier l'hormone antidiurétique qui permet de concentrer l'urine. Et on voit que quelques personnes en état de mort cérébrale n'ont pas de diabète insipide, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité de concentrer leur urine. Ça veut dire qu'une partie du cerveau fonctionne encore, malgré tout. À cela s'ajoute qu'une personne dite en état de mort cérébrale ne ressemble pas du tout à un cadavre. Son corps est encore chaud, son cœur bat, comme je vous l'ai dit, et c'est assez difficile, par exemple, pour le personnel soignant, de s'occuper de quelqu'un déclaré mort, comme s'il était vivant. Tout cela pour le garder en état et pouvoir lui prendre bon état de fraîcheur, on devrait dire, et pouvoir lui prélever des organes aussi en bon état. Donc tous ces soins, tout ce travail fourni par les infirmiers, par les infirmières, autour de cette personne en état de mort cérébrale ne se distingue pas de celui qui est effectué pour quelqu'un qui est vivant. Pour quelqu'un qui est vivant, on effectuerait ce travail pour son bien, lui permettre de vivre, de revivre. Pour quelqu'un qui est déclaré mort, c'est uniquement dans le but de le garder, de le conserver en bon état de fraîcheur. Je vous disais donc que le corps était chaud, que le cœur battait. Et je vais vous apprendre que la personne morte, dans ces conditions, peut réagir quand même à la douleur. Car on a constaté, lors de l'incision pour le prélèvement des organes, que la pression montait, que le pouls s'accélérait, et que quelquefois, il bougeait les membres, même de façon très vigoureuse. C'est ce qu'on appelle le signe de Lazare. Alors, on a dit que ce n'était pas vraiment le cerveau, dans ce cas-là, qui provoquait ces mouvements, mais c'était la moelle épinière. Ce sont des réflexes qu'on dit spinaux. Les réflexes spinaux, donc, comme servir ce schéma un petit peu, à partir de là. Pas de réflexe qui passe par là-haut, mais par ici. Même si on se dit que ce ne sont que des réflexes de la moelle épinière, ce sont des réactions quand même assez, vous l'imaginez, assez désagréables, assez gênantes, déstabilisantes, on pourrait dire, pour l'équipe qui procède au prélèvement des organes. à tel point qu'en Angleterre, il a été proposé de pratiquer une anesthésie générale et d'administrer des médicaments antidouleurs chez les donneurs morts pour leur éviter de trop bouger pendant l'opération. Alors cela se pratique en Angleterre et j'ai lu que ça allait sans doute être introduit chez nous. Et puis encore, si vous voulez, encore d'autres détails, même un détail croquignolet que je vous m'excuserai de vous présenter, c'est que quand il s'agit d'un homme en état de mort cérébrale, il pourrait, j'ai lu, avoir des érections et même concevoir. Je ne sais pas dans quelle situation on a essayé. Je n'ai pas de relation précise de ce type d'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une femme, elle, si elle est en état de mort cérébrale et qu'elle est enceinte, elle peut mettre au monde un bébé vivant sous les conditions de réanimation. Ça a été par contre porté à la connaissance du grand public. Je crois qu'en Finlande, une femme morte cérébralement quelques semaines avant a mis au monde un bébé vivant. Alors, pour résumer, nous avons affaire à un mort dont le cœur bat, qui est chaud, qui peut recevoir quand même une assistance respiratoire. Quand on va chercher quelqu'un au cimetière, on peut bien le ventiler tant qu'on veut, ça ne donne pas grand-chose, et qui peut bouger, et puis avoir des enfants. Alors, c'est un drôle de cadavre, et c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'on s'éloigne de la conception traditionnelle de la mort et du cadavre que nous avions. On peut se demander qui oserait mettre dans un cercueil un tel mort et l'enterrer. Si on admettait que cette personne-là serait morte, on pourrait alors aussi faire des expérimentations, des recherches de toxicologie, par exemple, ou des dissections, donc sur des personnes en état de mort cérébrale. Ça serait certainement très intéressant, parce qu'on aurait pratiquement des expériences sur du vivant, entre guillemets. Mais ceci n'a pas été encore proposé, c'est en tout cas pas dans la loi qui ne parle que des transplantations. Alors, vous voyez, il y a il y a d'abord une fiabilité des critères de mort cérébrale qui est mise en doute, et ensuite, il y a des éléments de vie qui persistent encore chez la personne en état de mort cérébrale. Ceci dit, je vous proposerai de faire un exercice, si vous êtes encore assez vaillant. On va essayer de prendre distance vis-à-vis des milieux religieux ultra-conservateurs, et puis des Japonais, qui n'admettent pas la mort cérébrale. Nous allons accepter que si le cerveau est cérébralement mort, c'est sûr qu'il est totalement... Il n'y a plus aucun élément de vie, en tout cas dans le cerveau. Nous allons essayer de faire confiance et puis supposer que les critères de mort cérébrale soient fiables. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, comme on a dû bien sûr aussi le constater assez souvent, la personne ne reviendra pas à la vie et, je cite, la défaillance irréversible du cerveau entraîne la mort inéluctable de tous les autres organes. Fin de citation. Mais que les organes ne puissent plus vivre quand le cerveau est mort, ça ne constitue pas en soi une preuve que la personne est morte. C'est un peu tiré par les cheveux. Parce qu'on peut dire autant des autres organes. Alors on dit, si le cerveau est mort, le cœur va mourir, ne peut plus vivre. Donc la personne est morte, mais on pourrait dire aussi, si le cœur est mort, le cerveau meurt ensuite. Il semblerait qu'établir une hiérarchie, comme le font les tenants de la mort cérébrale, établir une hiérarchie entre les organes vitaux, et, en donnant la première place au cerveau, est un procédé assez artificiel et plutôt fallacieux. On pourrait ajouter qu'un homme ne se réduit pas seulement à son cerveau. Il faut ce principe de mort cérébrale, ce concept de mort cérébrale, contredit un principe de globalité où on devrait admettre le décès que quand toutes les fonctions vitales ont cessé. Comme le disait Pie XII, et comme malheureusement ne l'a pas répété Jean-Paul II. On peut aussi dire que pour continuer notre critique, que les tenants de la mort cérébrale transforment un pronostic en diagnostic. Tout se passe comme si pour eux la formulation va mourir de façon certaine se traduisait par il a cessé de vivre. C'est la même chose. Le cerveau a cessé de vivre, le cœur donc va s'arrêter tout de suite. Donc il est mort. Alors bien sûr, il y a une transition qui conduit de la vie à la mort. Et dans cette transition, la mort du cerveau constitue probablement une étape, en admettant que les critères soient fiables, je vous le répète, mais dans cette transition, la mort du cerveau constitue donc une étape irréversible de la vie à la mort. Le cerveau, une fois mort, pourrait effectivement ne plus permettre de revenir à la vie. Mais l'irréversibilité, ce n'est pas déjà la fin de la vie humaine. Ce n'est pas parce qu'on a un stade irréversible qui nous conduit vers plus loin, vers un autre stade, qu'on est déjà mort. Je pense personnellement qu'on pourrait être moralement, qu'il serait moralement justifié, qu'il peut même être utile, nécessaire, d'utiliser le concept de mort cérébrale pour éviter un acharnement thérapeutique et donc arrêter un traitement de médecine intensive. Donc arrêter par exemple, quelqu'un gravement accidenté, qui est là depuis des semaines, il n'est pas justifié de le maintenir sous un respirateur si, effectivement, les critères de mort cérébrale sont remplis. Par contre, il est certainement abusif d'utiliser ce critère de mort cérébrale pour autoriser un prélèvement d'organes chez un, en fait, qui n'est pas chez un mort, mais chez un mourant. Les critères de mort cérébrale peuvent donner une limite pour un traitement de médecine intensive, mais c'est tout à fait immoral d'en faire une autorisation pour prélever des organes. Voilà, nous arrivons à la conclusion. Tout le monde est encore vivant cérébralement. Alors, je continue. Pour conclure, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes occupés d'un sujet délicat et très sensible. On est quand même très souvent dans une situation dramatique. Si vous vous souvenez de la première citation que je vous ai lue, il ne faut pas oublier, dans une discussion par exemple, que les personnes qui sont en attente d'un organe qui pourrait être greffé ou être transplanté, sont dans des situations dramatiques, des situations extrêmement difficiles, pénibles, avec très souvent un pronostic de mort certaine à court terme. Alors, on peut bien sûr toujours vous citer le cas d'une jeune mère de famille, de 5 enfants en bas âge, par exemple, atteinte d'une hépatite virale fulminante, dont le foie est détruit, et puis qui va mourir dans quelques jours, si on ne lui trouve pas rapidement un foie à transplanter. Il ne faut pas donc oublier qu'on a ce genre de situation, ce genre de problème en face, quand on s'intéresse à ce sujet. D'ailleurs, à ce propos, j'ai laissé de côté la question de savoir s'il était moralement permis à un catholique de recevoir un organe. Donc par manque de temps, et puis aussi parce que ce sujet m'a paru un petit peu trop difficile. Mais si la question vous intéresse, je vous laisserai vous adresser à Monsieur l'abbé, messieurs les abbés. Ceci dit, vous constatez qu'il est difficile d'accepter cette nouvelle conception de la mort qu'on nous propose et qui se trouve maintenant dans un texte de loi, où on assimile maintenant, de façon officielle, la mort de toute la personne à la mort d'un seul organe. Donc l'article 9, je vous le relis encore une fois. Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. On peut donc vraiment penser qu'on a affaire à une manipulation et une morale utilitaire dans l'intérêt de la médecine de transplantation, dans le but d'obtenir un plus grand nombre d'organes à transplanter. Et je vous fais remarquer encore on peut s'étonner que nos autorités scientifiques et gouvernementales, qui se sont toujours refusées à définir le début de la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de précédentes votations, où il était question de savoir quand est-ce que la vie commençait. Personne ne se disait capable de dire, de définir quand est-ce qu'on avait affaire à un être humain. Donc, nos autorités, incapables de définir le début de la vie, par contre, elles n'ont aucune difficulté à définir de façon officielle la fin de la vie. Alors, espérons, comme l'écrit un légiste, que la promulgation de la loi sur la transplantation ne signifiera pas la fin du débat autour de la mort de l'être humain. Voilà, fin de citation, fin de mon exposé. Je vous remercie d'être resté vigilant. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que si le donneur est un animal, ça ne pose pas de problème éthique ni médical?
Pidouze donc a abordé ce point-là et a dit que ça ne posait pas de problème.
Donc je suis du côté du donneur, il n'y a de toute façon pas de problème, c'est un animal, mais du côté du receveur, ça ne devrait pas non plus poser de problème?
Alors du point de vue éthique, non, il n'y a pas de problème. Du point de vue pratique et technique, c'est un peu plus... Là, c'est plus difficile. Oui, comme on l'a essayé, un reine chimpanzé. Alors, bien sûr, bon, maintenant, il y a une nouvelle conception aussi de l'animal. Hein, l'animal est mis au même rang que l'homme. Hein. Mais indépendamment de cette conception, bien sûr, non, il n'y a aucun problème du point de vue moral. Donc, Pidouze, là, de façon, on pourrait dire... Oui, on pourrait dire presque prophétique, avait envisagé cette possibilité et avait dit qu'il n'y aurait pas de.
Une limite, je pense. C'est si cette transplantation d'organes conduisait à une dénaturation du receveur.
Oui.
Ça, c'est la seule limite. Je crois qu'on citait l'exemple, par exemple, de cas des organes génitaux.
Mm-hmm. Il y a eu une époque beaucoup d'espoir pour la transplantation d'organes animaux. C'était le porc qui était, plus que le singe d'ailleurs, qui était visé, qui semblait être le plus proche de l'être humain pour ses organes, en particulier ses reins. Il y a eu une grande flambée d'enthousiasme. On a cru qu'on allait tout révolutionner. Et puis, ça s'est tout arrêté, pratiquement. Oui ?
La question, en cas de vie, donc donner un rein au niveau moral, la vie continue.
Oui. Alors là, c'est pareil. Donc Pidouze aussi a envisagé ce point-là. Non, il n'y a pas de problème. Si la personne qui donne le rein est d'accord, l'autre rein, la fonction rénale va être conservée. Le rein qui reste va suppléer au rein qui manque. Une personne qui se retrouve plus qu'avec un rein, son rein grossit, prend plus de volume et va travailler pour deux.
Il y a encore un autre organe,
c'est le foie. Donc c'est les Japonais qui, toujours avec leur la difficulté qu'ils avaient à admettre la mort cérébrale, et qui ont travaillé là-dessus, et puis qui ont mis au point le prélèvement partiel de foie. Et là, c'est comme pour le rein. Le foie peut se diviser chirurgicalement. Il y a des segments qui... Et la partie du foie qui reste chez le donneur va aussi s'hypertrophier, va remplacer le foie qui manque.
On a vu, c'est intéressé à transplanter la foie.
Alors ça, ce n'est dans la loi en tout cas, je n'ai pas d'éléments à ce sujet. Oui, et donc, mais là, lui, c'est pas lui qui le dit, d'ailleurs, il ne fait que le répéter, parce que ça, je l'ai lu sous d'autres, dans les directives, justement, des associations d'éthique, ou de l'Association suisse pour les sciences médicales, reprennent cette même terminologie, cette même façon de parler, que le cerveau, c'est l'organe d'intégration. Le fait, donc, de ne pas être intégré, est quasiment identique à celui d'être mort. Je vais relire ce passage dont vous parlez. Voilà. De façon spécifique, cela consiste à établir, selon des paramètres clairement déterminés, également partagés par la communauté scientifique internationale, la cessation totale et irréversible de toute activité cérébrale. Cela est considéré comme le signe que l'organisme individuel a perdu sa capacité d'intégration. Donc là, en fait, il ne fait que répéter ce qui était écrit ailleurs. L'abbé Rotoli, donc, qui cite le pape, est très sévère à son sujet, bien sûr. Il estime qu'il n'a pas vraiment dit, d'ailleurs. Hein. Il dit qu'il est peut-être plutôt d'accord, il parle d'anthropologie sérieuse. Il n'est pas totalement affirmatif, mais il semble quand même assez imprudent de faire penser qu'il pourrait être d'accord. Et je vous dis, dans ce que je viens de vous lire, il dit aussi que la communauté scientifique internationale, donc il dit en fait, tout le monde est d'accord. Et ça, l'abbé Rotoli dit après, il n'est pas vrai que la communauté scientifique internationale soit favorable à l'unanimité. Tout le monde n'est pas d'accord. Et là, ça aussi, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé dans mon exposé, mais c'est vrai qu'un des arguments, c'est que tout le monde est d'accord.
Concrètement,
c'est pas vrai. Alors, donc pour la. Vous certainement déconseillé, avec ce que j'ai dit, ça paraît très difficile d'accepter d'être un donneur, puisqu'on risquerait de se faire prélever un organe alors qu'on n'est pas encore mort. Après, pour ce qui est d'être receveur, alors là. La coopération est peut-être moins immédiate.
Oui. Surtout d'après tous les noms que vous avez donnés, je pense qu'il faut dire que le donneur.
Pour l'instant, donc, j'ai rien vu ou lu d'explicite à ce sujet. Est-ce que accepter ou être sur en cas de nécessité, en cas de problème, être sur une liste de receveurs en attente d'un organe, est-ce que c'est quelque chose moralement condamnable?
De la mort, séparation de l'âme et du corps.
Alors, on ne peut pas dire que la personne qui attend de l'organe ou qui en attend de se faire greffer donc, va provoquer la mort directement. Elle est sur une liste. Les organes vont être prélevés de toute façon. Et s'il n'y a pas de donneur dans le pays, il est même prévu que les organes soient exportés. C'est une question. Ou bien, par exemple, c'est un petit peu différent. Là, la coopération est encore plus éloignée, mais on peut être amené à prendre des médicaments qui ont été expérimentés dans des conditions illicites, morales. Vous voyez, bénéficier de choses qui, davantage, d'une aide ou, qui est expérimentée. La question n'est pas. Oui.
Le médicament a été découvert par des recherches immorales, c'est clair, c'est net. Mais je veux dire, actuellement, la production ou l'application de cette science n'est plus mauvaise, n'est plus entachée.
Oui, tout à fait.
Donc là, on prend quand même un organe vivant d'une personne. À cause de la mort.
C'est des choses qui sont un peu. Dont il vaut mieux discuter entre nous, parce que dans le grand public, vous voyez donc la personne qui est là dans une situation dramatique, ce sera forcément un jeune ou qui devrait avoir des années de vie et plein d'espoir devant lui. Hein, donc la jeune femme, la jeune mère de famille, tous ses enfants en bas âge. Et puis, à côté de ça, on pourra vous dire, mais vous discutez là pour quelqu'un qui, de toute façon, va mourir. Dès qu'on lui enlève son respirateur, va mourir tout de suite, immédiatement. Qu'est-ce que ça a un sens? Vous voyez, donc, dans l'esprit du grand public, là, maintenant, ça devient.
Là, on revient finalement au côté sacré de la vie humaine.
Oui.
Qui ne nous appartient pas. Cette vie humaine est apparue par l'âme qui a été mise par Dieu dans un corps. Et il appartient à Dieu seul de reprendre la vie humaine. C'est pas à nous. Même l'homme n'est pas libre de se mettre à mort. Ça, je crois que c'est la chose absolue qu'on a.
Il est clair que donc pour ces problèmes de transplantation, ou dans cette loi, il n'y a pas une trace de la notion de l'âme, où c'est purement matérialiste, absolument. Donc il n'y a pas une once de spirituel. En fait, tout le problème est là. Oui.
Les organes, se conservent de quelle manière et combien de temps?
Alors les organes, une fois qu'ils sont, il faut qu'ils soient frais au départ, puis après ils peuvent être perfusés, réfrigérés. Puis combien de temps on peut les conserver? Alors ça, je n'ai aucune idée sur les dates de péremption. Hein, je suis quand même pratiquement pas confronté à ces problèmes techniques. Hein. Alors, j'imagine qu'ils se gardent le temps d'un voyage. On peut aller prélever des organes dans un hôpital et puis une ambulance ou un hélicoptère va les transporter. On peut traverser un pays pour les transporter, en tout cas. On peut les prélever en Suisse et puis, par exemple, les amener à l'autre bout de la France. Alors si, avant on le faisait. Avant on le faisait. Mais comme on a dit que finalement que le cœur soit arrêté, c'était pas non plus, il pouvait aussi repartir. Alors il faut déjà qu'il y ait une réanimation qui a été faite. Et une réanimation, pour l'interrompre, une réanimation on dit c'est 30 minutes avant de considérer qu'on doit arrêter après. Il n'y a plus rien à faire après. Donc une personne qu'on a réanimée pendant 30 minutes et qui ne sera pas revenue à la vie. La réanimation n'a pas fait grand-chose, et pendant ce temps-là, déjà, les organes se seront un petit peu abîmés. 30 minutes d'hypoperfusion, de manque d'oxygène, ils sont abîmés. Donc nous avons des organes qui ne sont pas tout à fait abîmés, mais qui ne sont plus vraiment très frais. C'est un problème de fraîcheur, de qualité de l'organe. Alors, on a un peu plus de risques, il y aura plus de risques d'un échec de la transplantation, qui n'est pas admis. Si, ça se prélève quand même, parce qu'il y a un manque d'organes. On le prélève quand même, mais ça se prélève quand même, mais c'est pas défini comme les conditions idéales pour un médecin transplanteur. Certains me disent même on ne devrait pas, parce qu'on fait courir trop de ça vaut pas la peine, on va faire courir trop de risques au receveur de lui implanter un organe qui ne soit pas bon et qui ne prendra pas. Qui n'aura pas de reprise. Alors ça se fait par obligation, parce qu'il y a un manque d'organes, et il n'y a pas assez de gens en état de mort cérébrale. On se contente de ce qu'on a.
De donner ses organes ?
Non. Alors la loi, non, attendez, je vous ai dit que la loi, je vous ai dit quand j'en ai parlé, que la loi, elle prévoyait le consentement explicite et élargi. Donc une personne qui, même par exemple une personne qui serait isolée, qui n'aurait pas de famille, il n'y aurait personne pour dire ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle aurait fait, eh bien on ne prélèvera pas ses organes. On le ferait, et ça, on le ferait seulement dans le... C'est le consentement présumé. Consentement présumé, c'est-à-dire qu'on se dit, oh, de toute façon, elle n'aurait pas dit non, puis on prélève les organes même sans savoir.
Ça, c'est pas inscrit dans la loi ?
Non, c'est pas inscrit dans la loi. Justement, la loi ne permet... Ça, alors je dirais, c'est peut-être un point positif. En fait, dans la loi, tout est bon, sinon, hein, à part juste l'article 9. Il y a tout ça, c'est extrêmement valable, hein. Il y a plusieurs pages. Bon, peut-être pas au sujet des embryons et des fœtus, bien sûr. Mais donc dans la loi, il y a juste l'article 9 qui pose problème, plus l'article où on peut prélever sur les embryons, des fœtus avortés, avec les risques de dérapage. Même tout ça. Mais sinon, c'est bon. Il y a même un article qui dit qu'il faut étiqueter les organes. Il faut bien qu'il ne faut pas... Il ne faut pas se mélanger les pinceaux, mélanger le cœur, le foie et faire n'importe quoi. Et transplanter le foie chez la personne qui aurait dû recevoir le cœur, etc. Donc ça, c'est tout. Il n'y a rien à dire pour ça. Hein.